Séoul au jour le jour. Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 11 novembre à Séoul et aujourd'hui la Corée du Sud rend hommage aux soldats tombés pour la liberté et la démocratie du pays à l'occasion de la journée de commémoration des anciens combattants des Nations Unies. À l'origine, le 11 novembre à 11h marquait la fin de la Première Guerre mondiale. En Europe, ce moment de recueillement est devenu une tradition annuelle, puis un hommage élargi à toutes les victimes de guerre. S'inspirant de cet esprit, le gouvernement sud-coréen a institué cette journée pour honorer le sacrifice des anciens combattants de la guerre de Corée. Chaque année, à la même heure, une minute de silence est observée en direction du cimetière du Mémorial des Nations Unies à Busan, où reposent plus de 11 000 soldats de 21 pays. C'est dans ce moment de mémoire et de gratitude que s'ouvre notre édition de ce mardi. À l'occasion de cette journée de commémoration, une cérémonie de retour symbolique réunit cette semaine en Corée du Sud d'anciens combattants et des familles venues de 14 pays. L'événement organisé par le ministère des Patriotes et des Anciens Combattants se déroule sur 6 jours du 8 au 13 novembre. Il rend hommage aux soldats reposant au cimetière du Mémorial des Nations Unies à Busan. Parmi les pays représentés figurent les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, la Turquie, l'Australie, la Thaïlande, les Pays-Bas, la Colombie, la Nouvelle-Zélande, la Belgique, la France, l'Afrique du Sud, la Norvège et l'Inde. Les délégations ont atterri le 8 novembre. Le lendemain, elles se sont rendues au mémorial de la guerre à Séoul pour déposer une gerbe en hommage aux combattants tombés au front. Hier, les participants ont pris la direction de Busan afin d'assister ce 11 novembre à la cérémonie de commémoration et au déjeuner officiel en l'honneur des anciens combattants. Demain, ils visiteront le palais Changdeok et assisteront au concert dédié aux héros des Nations Unies. Le 13 novembre, ils regagneront leur pays respectif. Parmi les 80 invités, le plus âgé est Luis Garcia Velandia, un vétéran colombien âgé de 100 ans. Ancien soldat de l'armée colombienne, il a combattu à Yeonchon, dans le nord du Gyeonggi, lors de la bataille du mont Old Badley, au cours de laquelle son pays a perdu ou vu disparaître plus de 200 soldats. Willem Frederik van Stralen, ancien marin néerlandais âgé de 91 ans, revient en Corée pour la première fois depuis 72 ans. Ancien matelot de 3e classe de la marine néerlandaise, il avait pris part à des tirs de soutien au large de la côte de Wanghae, en Corée du Nord. Michel-Aimé Desmol, frère du soldat belge Oscar Desmol, tombé au combat, fait également partie du voyage. Des familles de vétérans turcs dont les dépouilles n'ont pas encore été retrouvées, celles d'Osman Koskun et d'Ibrahim Karatekin, ont elles aussi foulé le sol coréen. La fille du soldat Koskun a confié avoir reçu, après la mort de son père, une lettre écrite par celui-ci depuis la Corée, exprimant son vœu de retrouver ses restes afin qu'il puisse reposer au cimetière du Mémorial des Nations Unies. Le ministre des Patriotes et des Anciens Combattants, Kwon Oh-eul, a déclaré que le sacrifice et le courage des héros qui se sont unis sous la barrière de l'ONU pour défendre la liberté et la paix de la République de Corée continueront d'être inscrits dans l'histoire du pays. Il a ajouté que le gouvernement poursuivrait le développement de programmes internationaux de reconnaissance et renforcerait les liens avec les nations alliées. En Corée du Sud, la livraison à l'aube fait désormais partie du paysage quotidien. Dans un pays où le rythme de vie s'accélère et où les foyers d'une seule personne se multiplient, il suffit de passer commande avant de dormir. Au réveil, les sacs remplis de produits frais attendent déjà devant la porte. Introduit pour la première fois en 2014, ce service représentait à peine 500 milliards de won 4 ans plus tard. En 2025, le marché pèse désormais 15 000 milliards. Mais ce symbole de la modernité coréenne se retrouve aujourd'hui au centre d'un vif débat. Les discussions s'enflamment entre le monde politique et les syndicats, notamment la Confédération coréenne des syndicats, qui appelle à restreindre ces services pour protéger le sommeil et la santé des livreurs. Les acteurs du commerce en ligne, les petits commerçants et les associations de consommateurs ont répondu aussitôt. Pour freiner la livraison nocturne, pilier du e-commerce local risquerait d'ébranler tout l'écosystème logistique du pays. L'Association sud-coréenne du commerce en ligne a publié le 4 novembre un communiqué dénonçant une mesure qui provoquerait des désagréments pour les consommateurs, des pertes pour les agriculteurs et les petits entrepreneurs, ainsi qu'une diminution des emplois dans la logistique. Elle rappelle que ces livraisons rapides, qu'elles soient à l'aube, le jour même ou en moins de 24 heures, sont devenues un service de première nécessité pour des millions de Sud-Coréens, des couples actifs, des parents, de jeunes enfants ou encore des personnes vivant seules. Selon elle, les limiter reviendraient donc à priver la population du confort essentiel de commander la nuit pour recevoir au petit matin. Un sondage mené récemment auprès de 10 000 livreurs de Coupang, l'équivalent sud-coréen d'Amazon, montre que 93% d'entre eux s'opposent à l'interdiction. Moins d'embouteillages, des revenus plus élevés et la possibilité d'organiser librement leur journée figurent parmi les principales raisons. Interdire le travail à l'aube, c'est condamner nos moyens de subsistance, ont-ils déclaré, dénonçant une décision déconnectée de la réalité du terrain. Le débat a également gagné la scène politique. L'ancien chef du parti conservateur, Han Dong-hoon, a récemment déclaré à la radio « Ce ne sont pas les livreurs eux-mêmes, mais un tiers qui prétend décider à leur place de ce qui leur ferait du bien ». Il a ajouté qu'interdire la livraison à l'aube obligerait les ouvriers chargés du tri et du chargement dans les entrepôts à commencer leur travail encore plus tôt pour assurer les livraisons de jour, un aspect du problème que beaucoup ignorent. À gauche, l'ancienne députée du Parti de la Justice, Chang Heyang, a répondu « La liberté de choisir son métier ne signifie pas devoir risquer sa vie ». Elle a rappelé le décès du livreur Chang Sung-il, victime de surménage, avant d'ajouter « Il faut réduire ses horaires nocturnes pour éviter d'autres drames ». Difficile d'échapper aux messages indésirables qui s'invitent sur nos téléphones. Même après les avoir bloqués, ils reviennent sans cesse. Pourtant, grâce aux mesures renforcées du gouvernement, leur nombre a fortement diminué. Selon la Korea Communications Commission et l'Agence coréenne de sécurité de l'Internet, chaque Sud-Coréen a reçu en moyenne 3 spams par mois au premier semestre 2025, soit une baisse de 74% par rapport à l'an dernier. C'est le niveau le plus bas depuis 5 ans. En comptant les spams par message, appel et courriel, le total atteint 7,9 par personne et par mois, soit une baisse de plus de moitié sur un an. Seule exception, les appels vocaux non sollicités ont progressé d'environ 40%, atteignant une moyenne mensuelle de 2,13 par personne, soit une hausse sensible par rapport à l'an dernier. La commission explique que cette amélioration résulte des efforts conjoints du gouvernement, des opérateurs et des fabricants de téléphones. Le plan global lancé l'an dernier contre le spam illégal commence à porter ses fruits avec 5 grands axes d'action. Récupération des profits, assainissement du marché des envois massifs de messages, blocage renforcé, filtrage élargi et coordination entre les acteurs. Le gouvernement prépare désormais des réformes pour exclure les entreprises douteuses du marché des envois massifs, tandis que les opérateurs renforcent leur filtre et limitent la création de nouveaux comptes par les expéditeurs frauduleux. Écoutons à présent une chanson de circonstance. Voici Phone Number de Jinushan.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Vous écoutez Séoul au jour le jour et l'édition de ce mardi 11 novembre 2025 vous est présentée par Maxime Lalo. À Séoul, de plus en plus d'habitants remplissent leur verre directement au robinet. À l'issou, l'eau du réseau public de la capitale s'impose peu à peu comme une ressource de confiance. Près de 8 Séouliens sur 10 la boivent désormais chaque jour, signe d'un changement durable dans les habitudes et d'une confiance retrouvée. Ces résultats proviennent de l'enquête sur la consommation d'eau potable menée par la ville de Séoul et rendue publique hier, réalisée du 13 au 19 août par l'Institut Hankook Research auprès d'un millier de résidents âgés de 18 ans et plus. L'étude vise à suivre régulièrement les habitudes de consommation et adapter les politiques publiques en conséquence. Selon le rapport, 75% des personnes interrogées affirment utiliser l'eau du robinet comme eau de boisson, soit une hausse de 5,4 points par rapport à l'an dernier. En incluant les foyers qui la filtrent avant de la boire, le taux d'usage domestique atteint 56,3%, en hausse de 6,7 points. L'eau du robinet sert aussi largement à préparer le thé, le café, le riz ou les repas, ce qui montre une consommation indirecte de plus en plus importante. Comparé à d'autres grandes villes, Séoul affiche des résultats remarquables. Selon la méthode utilisée aux États-Unis, son taux d'utilisation atteint 80,8% contre 65% pour la moyenne américaine. En prenant pour référence les critères appliqués à Paris, la capitale coréenne obtient 80,2%, presque au même niveau que la capitale française avec 83%. Ce qui retient surtout l'attention, c'est le niveau de satisfaction des citoyens. 8 Séouliens sur 10 déclarent être globalement satisfaits de la qualité de la rissou, un chiffre en nette hausse par rapport à il y a 5 ans. Le taux de satisfaction lié à cette qualité atteint 82,2%, soit 4 points de plus que l'an dernier. Pour la boisson et la cuisine, il grimpe à 91,7% et atteint même 94,2% pour l'usage domestique. Tous les indicateurs sont en progression, preuve que les habitants la jugent plus sûre, plus propre et plus fiable. Selon Yue Seng, directeur du bureau d'Alissou, la confiance des habitants envers l'eau du robinet s'est nettement accrue. Nous continuerons à renforcer la gestion scientifique de la qualité et la transparence des informations pour que chacun puisse la boire en toute sérénité. Une récente enquête du gouvernement sud-coréen a révélé qu'un distributeur automatique de cigarettes électroniques sur 10 permettait encore d'acheter un produit sans vérification d'âge. La vente de tabac aux mineurs est strictement interdite par la loi, mais le système de contrôle de ces points de vente automatiques reste très limité, rendant les sanctions difficiles à appliquer. Selon les données fournies par le ministère de l'Égalité des sexes et de la famille, 241 machines ont été inspectées. Sur l'ensemble, 17 ne disposaient d'aucun système de vérification d'âge et 10 autres, bien qu'équipés, ne fonctionnaient pas. Au total, environ 11% pouvaient être utilisés sans aucun contrôle. Depuis 2011, les produits de vapotage sont classés parmi les produits nocifs pour les adolescents. Leur vente est interdite aux jeunes et toute infraction peut entraîner jusqu'à 2 ans de prison ou 20 millions de won d'amende. Mais le problème vient du fait que la loi actuelle sur le commerce du tabac ne concerne que les produits fabriqués à partir de feuilles de tabac. Les e-cigarettes, à base de nicotine synthétique, échappent donc à cette définition et se trouvent dans une véritable zone grise. Les boutiques automatiques de ce type ont ainsi pu fonctionner sans licence de détaillant ni restriction particulière. Lors des inspections, le gouvernement a également vérifié si les appareils disposaient d'un système d'authentification externe. Sur 241 points de vente, 200 n'en avaient pas du tout. Et parmi les 41 magasins équipés, 5 appareils ne marchaient plus. Actuellement, les distributeurs automatiques de cigarettes électroniques ne sont pas considérés comme des établissements interdits aux moins de 18 ans et n'ont donc aucune obligation d'installer un dispositif de vérification visible à l'extérieur. Pour combler cette faille, une révision de la loi sur le commerce du tabac a été adoptée par la Commission de la stratégie et des finances du Parlement à l'Assemblée nationale. Le texte inclura désormais les produits à nicotine synthétique dans le champ de la réglementation, mais son entrée en vigueur est prévue 6 mois après la promulgation, ce qui signifie que d'ici là, les mineurs pourront encore acheter librement ces produits. Le député Park Hong-bae a réagi en déclarant que les distributeurs automatiques de vapoteuses se comportent comme des zones de non-droit. Il a appelé le ministère à ne pas attendre l'application de la loi et à agir dès maintenant en prenant des mesures administratives immédiates comme l'obligation de vérifier l'âge à l'entrée et à la vente ainsi que le renforcement des inspections conjointes sur le terrain. Après des années difficiles, le tourisme sud-coréen retrouve des couleurs. Pourtant, derrière cette reprise, la consommation intérieure reste à la traîne. Les professionnels du secteur y voient l'effet conjugué de tarifs élevés et d'offres touristiques trop uniformes qui freinent l'envie de dépenser. Selon les données publiées le 4 novembre par le Korea Tourism Data Lab et plusieurs acteurs du secteur, les dépenses touristiques des résidents ont atteint plus de 116 000 milliards de won entre janvier et septembre, soit une baisse de 2,6% sur un an. Le nombre de visiteurs nationaux, quant à lui, a augmenté de 3,7% pour atteindre près de 2,3 milliards de déplacements. Autrement dit, les Sud-Coréens voyagent davantage, mais sortent moins volontiers leur portefeuille. Sur le terrain, cette tendance se fait clairement sentir. Les festivals régionaux et les sites touristiques attirent de plus en plus de monde, mais les montants dépensés restent modestes, parfois même en recul. À Hongcheon, les ventes réalisées pendant le Starlight Music and Beer Festival ont diminué de 1,2% par rapport à l'an dernier. Et dans la province du Jeolla du Nord, la dépense moyenne par personne lors des grands festivals culturels n'a pas dépassé 7 800 won, soit une chute de 12,1% par rapport à 2019. Un voyagiste basé dans le Gyeongsang du Sud le résume ainsi. Il y a quelques années, les touristes achetaient des produits locaux ou participaient à des activités payantes. Aujourd'hui, ils se promènent, prennent des photos, goûtent un plat rapide et repartent les mains vides. Pour les acteurs du tourisme, cette baisse de l'envie de dépenser s'explique par 2 raisons principales. La première, c'est l'image négative laissée par les prix jugés excessifs qui a refroidi les consommateurs. La seconde, c'est le manque d'originalité des contenus proposés. Trop peu d'expériences nouvelles, trop peu de diversité, si bien que les voyageurs n'y trouvent plus vraiment d'intérêt. Beaucoup estiment qu'il faut désormais ranimer la consommation grâce à des projets ancrés dans l'identité locale. La ville de Gimcheon en offre un bon exemple en jouant sur son nom qui évoque Gimbap Jjangguk, la célèbre chaîne de restaurants de rouleaux de riz. La municipalité a lancé un festival consacré au Gimbap. L'événement organisé les 25 et 26 octobre a attiré près de 150 000 visiteurs et plus de 100 000 portions ont été vendues. D'après un responsable d'une grande plateforme de tourisme, les attentes des voyageurs changent vite, beaucoup plus vite que la manière dont les agences ou les collectivités s'adaptent. Pendant des années, on s'est dit qu'attirer des gens suffisait. Aujourd'hui, il faut leur donner envie de rester, de découvrir, de vivre quelque chose d'unique. Et juste avant de passer le micro à Valentine Philippe pour Carte Postale, je vous propose d'écouter Travel de Bulpankan Sajunti.
Aujourd'hui, cap sur Sangsu, un quartier en pleine effervescence à Séoul, connu pour ses cafés branchés et ses boutiques créatives. Mais cette fois, on va plonger dans un univers complètement différent, celui de Lucky Pop, un gigantesque espace dédié aux machines à capsules, capsule popki en coréen, et aux machines à pinces. Imaginez un lieu sur 4 étages, où chaque niveau regorge de machines au design coloré et ludique. Du capsule popki classique aux pinces pour attraper des peluches, tout est pensé pour surprendre et amuser les visiteurs. Vous pouvez tenter votre chance pour obtenir des personnages emblématiques, Snoopy, Charlie Brown, Lucy et bien d'autres encore. Chaque machine est un petit défi, et la satisfaction quand vous réussissez à attraper un objet est immédiate. Les capsules popki ne sont pas seulement une activité pour enfants. Les adultes s'amusent tout autant, partageant des moments de complicité et de rire. Certains viennent pour collectionner des peluches, d'autres juste pour tester leur chance ou découvrir l'ambiance unique de cet espace. La diversité des machines et la qualité des pinces rendent l'expérience à la fois stimulante et addictive. Chaque étage propose une expérience légèrement différente. Les machines sont organisées pour que les visiteurs puissent circuler facilement, observer les autres tenter leur chance et se laisser emporter par la dynamique du lieu. Les couleurs, les sons et les lumières créent une atmosphère presque féerique où le plaisir et la surprise sont au rendez-vous à chaque coin. Pour ceux qui aiment les objets à collectionner ou les petits défis, Lucky Pop est un véritable paradis. Et même si vous ne remportez pas toujours la peluche désirée, le simple fait de participer, d'observer et de rire avec les autres visiteurs rend la visite mémorable. C'est aussi un excellent endroit pour prendre des photos amusantes et partager des moments de complicité avec des amis ou en famille. Enfin, le lieu est facile à trouver. Pour ceux qui ont encore du mal avec l'adresse, souvenez-vous simplement de Paegok Budongsan et vous tomberez sur le bâtiment facilement. Que vous soyez collectionneur, amateur de machines à capsules ou simplement curieux, Lucky Pop est une expérience unique à Séoul où chaque visite laisse des souvenirs mémorables et un sourire garanti.
Ainsi se termine votre émission Séoul au jour le jour. C'était Hajin Ho à la rédaction, Maxime Lalo au micro et Kim Hongju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de KBS World Radio.